France Culture.
Partir aux confins du monde et des vivants et suivre ses rêves. Explorer les marges dans cet entre-deux-mondes qui nous permet de lever le voile sur l'essentiel de nos existences, sur une planète où l'oubli règne en maître et où tout devient peu à peu aveugle. En un mot, lutter contre notre société devenue amnésique. C'est la raison d'être et de faire de notre invité qui questionne les façons d'être au monde et nous révèle d'autres manières de se relier à ce monde. Comprendre, dire, sensibiliser. Par la puissance des mots, elle éveille nos consciences, nous montre des dialogues possibles avec les entités et le vivant non humain et nous pousse à les considérer à la bonne place dans des relations communes. Spécialiste des peuples et des cosmologies du Grand Nord, notre invité n'est autre que l'anthropologue Nastasia Martin. Ravie de vous accueillir et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Et on vous doit des livres qui ont touché le public. Je peux mentionner Les âmes sauvages, paru à la Découverte, À l'est des rêves, réponse et veine aux crises climatiques, édité par Les empêcheurs de penser en rond, Croire aux fauves, paru chez Gallimard. Et puis vous nous offrez, avec le photographe Olivier de Sépibus, un très beau livre, texte et photos, sur les glaciers et leur évolution face au réchauffement climatique. Il s'intitule Les sources de glace. Il est publié chez Paulsen. Rencontre avec vous aujourd'hui, Nastasia Martin, des glaciers à côté de chez nous, jusqu'au peuple du bout du monde. Bienvenue à toutes et à tous, c'est votre magazine de l'environnement sur France Culture. Nous sommes en direct, en partenariat avec le journal Le Monde, émission préparée par Corinne Amar, Célestine Babinet et Jeanne Agrapard, avec la collaboration de Vanessa Chang, celle des équipes de documentation de Radio France. Émission réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique Dalia.
On fait face à la vallée d'eau, une glacière. Et tout à fait au fond de cette vallée trônent les 3000 du Luchonnet, qui abrite le dernier glacier des Pyrénées centrales françaises. Ce glacier qui est tout au fond de la vallée d'eau, glacier du Seuil de la Baque, était autrefois, en 1850, le deuxième plus grand glacier des Pyrénées avec 145 hectares. Aujourd'hui, on est à autour de 5 hectares de superficie, donc il a énormément diminué. C'est un parmi les 17 que comptabilise encore l'ensemble de la chaîne pyrénéenne. Pour comparaison, donc en 2000, il y avait 44 glaciers et en 1850, il y a beaucoup plus longtemps, il y avait une centaine de glaciers dans les Pyrénées. Moi, depuis que je mesure les glaciers, depuis un peu plus de 20 ans, c'est en moyenne un glacier par an qui disparaît, voire davantage. Il en reste 17 ans. Voilà, ça, c'est ultra simpliste comme prévision, mais peut-être que ça colle plus ou moins avec les perspectives.
Nastasia Martin, on vient d'entendre un extrait du reportage de Véronique Rebérotte tourné dans les Pyrénées et diffusé sur France Culture le 14 novembre 2024. L'écriture des mots pour dire, pour témoigner, pour sensibiliser, pour alerter sur l'agonie des glaciers et sur le devenir de notre monde. Vous le faites depuis des années en anthropologue que vous avez toujours voulu être.
Oui, ce travail sur la question des manières de se saisir et de faire avec le changement climatique, je l'ai entamé il y a 20 ans maintenant, lorsque je travaillais avec les Gwich'in, une population de chasseurs-cueilleurs dans le nord-est de l'Alaska. Et tout ce travail qui était mon travail de thèse a vraiment consisté à essayer de comprendre comment déjà la question de comment leur monde était littéralement en train de s'effondrer, le sens commun qui ne faisait absolument plus sens, toutes les entités auxquelles ils se reliaient auparavant, les êtres avec lesquels ils interagissaient, qui changeaient brusquement de trajectoire, de mode d'existence, etc. Et comment en fait les réponses qu'ils apportaient à ce changement climatique étaient bien loin du technosolutionnisme actuel, de tout ce que peut entendre maintenant sur les logiques de transition, mais finalement émanait d'une autre cosmologie qu'on peut dire animiste.
Oui.
Voilà, donc d'autres manières de s'emparer de ces êtres et entités qui se métamorphosent.
Et alors justement, avec ce dernier livre, c'est aussi l'objectif de sensibiliser, de témoigner, ce livre conçu avec le photographe Olivier de Sépibus, où vous écrivez notamment « Nous travaillons des mots et des images capables de faire résonner les métamorphoses du monde ». Alors on peut peut-être rentrer justement sur ces métamorphoses, lesquelles en particulier qu'on retrouve et que vous avez envie justement de donner à comprendre pour mieux peut-être imaginer le monde d'après.
Oui, alors lorsque je ne suis pas sur le terrain auprès de collectifs autochtones en Alaska ou Kamchatka ou plus récemment en Patagonie sur des affaires de transition, justement, il se trouve que j'habite dans la région des Hautes-Alpes en lisière du parc national des Écrins et que depuis 20 ans je non seulement constate mais expérimente au quotidien la fonte de ces glaciers, le recul de ces glaciers qui est absolument incroyable lorsqu'ils sont vraiment sous votre fenêtre, et puis également les montagnes qui s'effondrent et qui se ressemblent de moins en moins. Et en fait, et par ailleurs, il se trouve que la pratique de l'anthropologie est pour moi depuis le début, depuis 20-25 ans, vraiment liée à cette question de parcourir les montagnes et aussi à la pratique de l'alpinisme. Parce que ce rapport à l'instabilité écosystémique et à l'incertitude que je travaille auprès des collectifs autochtones qui y sont confrontés, il se trouve que c'est quelque chose que je vis au quotidien lorsque je suis chez moi et que je parcours ces montagnes qui s'effondrent. Donc, il y a quelques années, j'ai eu envie de me pencher intellectuellement sur cette question.
Est-ce qu'on peut dire que finalement ce que vous ressentez face à cette nature percutée par les forces anthropiques, c'est comme la perte d'un membre de sa famille ou vos sentiments d'être dans un monde qui s'effondre partout ?
Oui, enfin on pourrait aller jusque-là, en tout cas. Les collectifs Aymara, par exemple, sur l'altiplano chilien ou bolivien, pourraient dire exactement ça. En fait, que les montagnes sont quelque part des membres lointains de la famille et que les humains y sont irrémédiablement reliés. Mais je dirais que moi, enfin, dans mon cas, cet intérêt pour les montagnes en train de s'effondrer et les glaciers qui fondent, c'est vraiment structuré autour d'une question qui était vraiment une question territoriale et politique. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré Olivier de Sépibus pour la première fois. Il se trouve qu'il y a quelques années, nous avons monté un collectif citoyen dans le canton de Lagrave qui s'appelle Lagrave Autrement et qui alertait sur les logiques aménagistes actuelles du glacier de la Girose, qui est un des derniers très très grands glaciers des Alpes. Et qui posait la question de doit-on véritablement, face à ces géants qui sont en train de disparaître, aller toujours plus haut, plus vite, plus fort pour continuer de les exploiter jusqu'à la dernière goutte, ou ne doit-on pas changer de regard, changer de discours et peut-être faire un pas de côté par rapport à ces logique aménagiste. Et c'est dans ce cadre-là qu'on avait invité Olivier de Sépibus à présenter son travail, que j'avais trouvé non seulement extrêmement intéressant, mais qui résonnait avec mes problématiques d'anthropologue. Je dirais, pour dire les choses en deux mots, que l'une des problématiques d'Olivier, c'est certainement de se demander si on peut véritablement changer d'imaginaire de la montagne sans changer d'imagier. Et que ma problématique à moi, c'est est-ce qu'on peut faire collectif, faire commun à l'heure actuelle dans un monde dont les formes changent, sans changer de non seulement de cosmologie, mais de cosmopolitique en réalité.
Et donc vous retrouvez tous les deux et avec les photos, avec vos mots, des porte-voix en fait de ce qui disparaît sous nos yeux. Mais vous utilisez aussi d'autres mots, ceux de René Char, hein, qui accompagne les très belles photos d'Olivier de Sépibus, avec ces extraits que l'on trouve dans le livre de Retour à mon poème, paru chez Gallimard en 1966. Eh bien, je vous propose d'écouter la voix de René Char, justement, Poésie sur parole. C'était sur France Culture le 9 octobre 1990.
Se sont établis et prospères dans le berceau d'une mer où l'on s'est rendu maître des glaciers. Tu es prévenu. Comment, faible écolier, convertir l'avenir et détiser ce feu tant questionné, tant remué, tombé sur ton regard fautif? Le présent n'est qu'un jeu ou un massacre d'archers.
Nastasia Martin, la voix de René Char, la puissance des mots.
Elle est toujours très émouvante et voilà, donc ce texte que j'ai écrit, il a vraiment été inspiré, bon d'ailleurs comme l'ensemble de mon travail, hein, par la poésie de René Char, qui est vraiment un poète de la guerre et de la résistance. C'est-à-dire que la puissance et la performativité de ces mots émergent vraiment d'un monde imprégné d'une violence inouïe, et néanmoins il réussit à traduire avec ses mots des formes de vitalité. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je recherche, que je recherche dans l'écriture. Voilà, c'est pas une écriture purement contemplative ou descriptive. Et d'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle mon écriture sur ce travail-là résonne avec les photos d'Olivier de Sépibus. Mais c'est que finalement, les photos tiennent lieu de témoins d'une relation de réciprocité entre un humain et des glaciers. On est vraiment absolument pas dans une logique contemplative. On est dans une logique où on regarde quelque chose qui nous regarde également. Et ça, finalement, c'est quelque part très animiste comme posture. C'est vraiment la raison pour laquelle on a eu envie de faire ce travail ensemble. Et je dirais qu'on a, ce qui nous lie, c'est vraiment une question de méthode, en fait, c'est-à-dire de méthode et de travail, de l'outillage conceptuel, théorique d'un côté, imaginal de l'autre. Mais c'est l'idée de dire, bon, si on a un problème de, si la méthodologie naturaliste classique ne nous permet plus de saisir les entités en transformation à l'heure actuelle, alors il faut se donner les moyens de faire un pas de côté, de la repluraliser et de changer d'image et changer de discours sur ces entités-là. C'est vraiment la posture, je dirais, théorique centrale de ce livre.
C'est ce sentiment, hein, d'être peut-être loin de ce que vous avez vécu, peut-être enfant, hein, fille de la montagne. Vous êtes née à Grenoble, vous êtes d'origine franco-italienne, mais avec vos parents, hein, qui étaient chercheurs, je crois, en politique sociale, vous avez aussi vécu ailleurs, en Namibie, hein, je crois, notamment, et donc vous découvrez aussi ces peuples d'ailleurs, mais très tôt, vous apprenez l'existence de ces populations autochtones qui dialoguent avec les animaux, avec les plantes, et vous êtes intéressé, mais aussi à travers des livres, au-delà de votre vécu. Tout cela, finalement, on sent que ça vous permet cette... restitution par les mots aussi de ce que vous avez envie de nous dire aujourd'hui. Et vous parliez de ce lieu de prédilection, hein, où vous habitez dans le canton de la Grave, aux portes des écrins. Aimer lire, déchiffrer la montagne comme une puissance intrinsèque avec laquelle on peut entrer en dialogue et se mettre à l'affût. C'est vraiment cette quête des bouts du monde. C'était une évidence dans vos travaux d'anthropologue. Est-ce que justement ce bagage de l'enfance était là?
Oui, c'est quelque chose que je répète assez régulièrement, mais évidemment, ce sentiment d'inadéquation au monde moderne, occidental, avec tous les guillemets qu'il faut, dans lequel je suis née, était vraiment là très tôt. Et cette certitude qu'il devait exister quelque part d'autres manières de faire collectif, d'autres manières de se relier aux êtres et entités qui composent un monde, un cosmos. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, oui, qui était présent depuis l'enfance et qui a présidé au choix de faire de l'anthropologie non seulement un travail et une carrière, mais surtout une vie en réalité.
Donc ces montagnes, ces paysages que vous essayez de nous rendre à la vue, hein, puisqu'on ne les perçoit plus comme des entités, mais il y a aussi des voix, des bruits qui rappellent qu'ils sont là aussi. Vous parlez des hermines, des chamois, des renards, des lièvres, des loups. Et puis il y a les peuples. Et je vous propose de partir justement plus loin vers les peuples, vers les Évennes, à travers cet extrait d'un documentaire que vous avez co-réalisé avec Mike Mideson et qui a été diffusé sur Arte.
Nastassia m'a raconté que depuis deux siècles, les Évennes parcourent ces forêts au rythme des saisons et de la migration de leurs rennes. Sous le régime communiste, les troupeaux ont été regroupés dans des fermes d'État et les familles d'éleveurs forcées de devenir sédentaires. À la chute de l'Union soviétique, la famille d'Ivan a décidé de regagner la forêt. Aujourd'hui, leur clan compte une cinquantaine de personnes. Ils vivent dans quatre camps de chasse disséminés dans un territoire grand comme la Suisse. Nous faisons route vers le plus éloigné, Tvayan, la maison d'Ivan, et de sa mère, Daria.
Vodka! Vodka! Yaya, vas-y, mon Ronaruka!
Nastassia Martin, c'est une façon de partir avec vous, hein, dans ces confins du bout du monde, partir vivre avec les Évennes du Kamtchatka, éleveur de rennes, de l'autre côté donc du détroit de Bering, et puis cette famille qui a décidé de repartir, en fait, vivre à partir de quand, après la chute de l'Union soviétique, c'est ça?
Oui, en 1989, lorsque tout s'est effondré au Kamtchatka et que, comme le dit Daria, la lumière s'est éteinte, c'est que les magasins étaient vides, que toutes les aides sociales avaient été supprimées et ils ont décidé de repartir vivre en forêt de chasse et de pêche, puisque évidemment leur troupeau leur avait été enlevé pendant toute l'époque soviétique, et donc de réinventer un mode de vie le plus autonome possible. Évidemment, ce sont des zones grises, et de réinventer également des manières de se relier aux animaux, aux plantes, aux rivières, qui composaient leur monde, parce que les derniers chamans avaient disparu dans les années 60 et qu'il leur a donc fallu réapprendre à rêver. Néanmoins, c'est un sujet assez sensible en ce moment pour moi et qui d'ailleurs préside en fait quelque part à l'écriture de ce texte sur les glaciers. Il se trouve que j'ai entamé l'écriture de ce texte en octobre. Date à laquelle nous avons, donc la famille de Daria et moi-même cessé d'avoir des nouvelles d'Ivan,
le fils de Daria,
parce que il est parti en Ukraine
faire la guerre,
voilà. Et donc là, nous, on ne sait pas s'il est vivant ou mort. Et évidemment, le clan familial s'est complètement disloqué. Donc c'est la raison pour laquelle ce texte sur les glaciers s'ouvre sur un constat de stupéfaction, de pétrification. C'est-à-dire, ne vaudrait-il mieux pas se taire au vu de la guerre qui se perpétue et des atrocités qui ne cessent chaque jour d'être de pire en pire? Quel est le sens de continuer d'écrire, voilà, comme des manières de crier en silence. Et voilà, si on continue d'écrire, dans quel but, dans quelle énergie, voilà, c'est vraiment c'est des questions qui m'habitent et qui, j'imagine, habitent nombre de chercheurs et d'écrivains à l'heure actuelle et face au désastre politique dans lequel on se trouve. Néanmoins, il me semble que, en tant que chercheur, si on a cette possibilité-là d'être réflexif sur nos sujets d'études, c'est presque un devoir. Un devoir d'engagement, en fait, que de continuer à écrire, que de continuer à remanier, réinventer des mots, des concepts, des images plus ajustées aux situations que l'on tente de décrire, à ces mondes qui s'effondrent, à ces collectifs qui disparaissent. Remanier ces concepts parce que si on ne le fait pas, si on ne travaille pas cette matière conceptuelle, on ne sera pas en mesure de produire des réponses hors du technosolutionnisme ambiant dans lequel on est plongé et qui procède de la même cosmologie, de la même manière d'être au monde naturaliste, c'est-à-dire d'avoir conçu ce monde comme extérieur aux humains, donc un monde que l'on peut contrôler, que l'on peut gérer à notre bon vouloir. Et ce qu'on voit, ce qui se passe aujourd'hui, et moi c'est ça qui m'anime dans mon travail actuel sur la relation aux éléments, c'est que qu'est-ce qui se passe avec le changement climatique, c'est que ce sont ces mêmes éléments, ce qu'on appelle des milieux abiotiques, qui ne sont pas censés avoir d'agentivité. Alors aujourd'hui, on veut bien reconnaître des formes d'agentivité aux animaux, aux plantes. Néanmoins, lorsqu'on arrive sur les milieux abiotiques, c'est un peu plus complexe. Néanmoins, qu'est-ce qui se lève aujourd'hui au moment du changement climatique? C'est justement, ce sont ces puissances élémentaires-là qui nous débordent, qui fissurent nos cadres de référence classiques. Et je ne pense pas que les techniques de géo-ingénierie seront demain capables de réparer le climat et de domestiquer à nouveau, si tant est qu'ils n'ont jamais été domestiqués, ces éléments qui s'emballent.
Donc ça veut dire pour vous, hein, Anastasia Martin, continuer dans l'adversité, hein, face à cette folie du monde dont vous parlez justement dans le texte du livre les sources de glace, cette folie du monde, la guerre, l'absurdité politique de part en part, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, donc notamment, c'est continuer à décrire le monde, le vivant, les vivants, interroger les métamorphoses pardon, de ce monde pour tenter malgré tout d'enclencher quoi, une prise de conscience, une autre façon de voir ce monde et d'être au monde.
C'est-à-dire qu'il faut tenir plusieurs choses a priori contradictoires ensemble. C'est-à-dire que dans ce texte, je suis pas en train de dire qu'il faut cesser de documenter de manière rationnelle et classique la fonte des glaciers. Tout au contraire, néanmoins. Ce que j'interroge, c'est notamment la manière dont les sciences écologiques ont été littéralement infectées par le discours économique en réalité. Et ce qui fait que notre manière de parler de ces entités, elle est imprégnée de la question de la production. Et ça, on parle de ressources.
On parle de services écosystémiques.
De services écosystémiques. On parle de stock. Alors, en ce qui concerne les glaciers, on parle de gains de neige à l'amont, de pertes en eau à l'aval. Les glaciers, ils ont des bilans. Ils peuvent avoir des bilans négatifs et des bilans positifs, comme dans une entreprise. Cette manière d'en parler, elle imprime forcément non seulement un certain imaginaire, mais des plans de gestion qui nécessairement vont aller dans ce même sens. Et ça, c'est vraiment problématique.
Alors, qu'est-ce que concrètement, puisque vous êtes immergé dans ce quotidien des Évennes, qu'est-ce que ces familles nous apprennent de justement ces dialogues possibles avec les entités naturelles, avec les animaux? Ils n'en excluent pas les rêves d'ailleurs, hein, des rêves rencontres avec les âmes des humains décédés ou celles des âmes des animaux qui peuplent le milieu de vie en partage. Dites-nous concrètement, en quoi cette façon de voir justement le vivant et les vivants devraient nous revenir, parce que en d'autres époques, on a eu aussi une autre attitude avec la Terre, la planète et le vivant, et on est devenu des peuples amnésiques même.
Oui, c'est la question de la perte de la mémoire. Elle est également centrale dans ce texte sur les glaciers, et peut-être qu'on y reviendra par la suite. Mais c'est de tout le trajet de ce clan familial qui repart en forêt et qui doit renouer avec de très anciennes manières de faire qui leur ont été enlevées depuis les années 20.
C'est vraiment une politique, il faut l'expliquer, effectivement, d'acculturation, d'assimilation dans des colcoses pratiquées par les Russes vis-à-vis de ces peuples indigènes.
Évidemment. C'est vraiment une manière de, finalement, de pas à pas, pour eux, de remonter le fil de la mémoire et de se rendre à nouveau capables par eux-mêmes, sans médiateur, de se relier à ces êtres et entités. Et finalement, c'est le rôle des histoires et des mythes que ces personnes se racontent au quotidien autour du feu. C'est que cette mémoire, finalement, la raison pour laquelle elle n'a pas été perdue, c'est parce qu'il y a une manière de se la raconter vraiment quotidiennement, qui fait que le jour où vous vous retrouvez véritablement dans la forêt à devoir faire avec des animaux qui migrent ou ne migrent pas, des saumons qui remontent ou ne remontent pas la rivière, etc., vous avez déjà des outils à la fois diurnes mais aussi oniriques pour vous relier à des dynamiques qui ne sont pas des dynamiques humaines. Donc c'est vraiment cette tentative de remonter pas à pas le fil de la mémoire. Et par ailleurs, c'est exactement ce qu'on essaie de faire à l'heure actuelle sur le canton de la Grave, pour revenir à cette question des glaciers. Ce texte, les sources de glace, je l'ai vraiment pensé comme une introduction programmatique et théorique à un travail en cours à l'heure actuelle avec une collègue qui s'appelle Anne de Malray, pour un livre qui sera à paraître en 2026 chez Actes Sud, qui va s'appeler « Ici sont les dragons ». Et c'est un livre sur la base d'entretiens avec des habitants et habitantes du canton qui, justement, en réinterrogeant les pratiques et les histoires de vie des divers collectifs qui qui sont attachés à ce territoire et à cette montagne et à ces glaciers de manière différente, finalement, comment, lorsque la parole leur est rendue, ils ne sont pas à l'endroit attendu et par les politiques de la conservation et par les logiques aménagistes du territoire. Il y a vraiment cette idée que de très anciennes manières de se relier au monde ressurgissent finalement lorsque tout simplement on fait œuvre de démocratie et on leur rend la parole.
Won't you open for me the door to your ice world, to your white desert? I just want to stare out over these snow fields until
chante The Frozen World, et c'est la suite de De Cause à Effet, le magazine de l'environnement sur France Culture, en direct et en compagnie de notre invitée, l'anthropologue et écrivaine Nastasia Martin, qui est titulaire de la chaire CNRS Habitabilité de la Terre et Transition Juste à l'Institut des Sciences Juridiques et Philosophiques de la Sorbonne. Eh bien, nous explorons les confins du monde et les différents dialogues possibles avec le vivant, les autres façons d'être au monde et de se relier à ce monde. Nastasia Martin, qui, avec le photographe Olivier de Sépibus, publie chez Paulsen un très beau livre intitulé « Les sources de glace ».
Une vue a coupé le souffle. Depuis 40 ans, le téléphérique de la Grave ouvre à tous l'expérience de la montagne à 3200 mètres. Pas assez haut pour l'exploitant qui veut aujourd'hui remplacer ce vieux téléski par un téléphérique accessible aux piétons. Mais plus bas au village, le sujet divise profondément. Cet artisan est l'un des rares à s'exprimer.
La Grave, on n'a jamais avancé et il faut que c'est peut-être l'opportunité de vouloir avancer un peu plus et de continuer comme ça. Après, il faut tout pour faire un monde, donc il y en a qui sont contre, d'autres qui sont pour. Mais je pense que pour la Grave, on est dans la bonne dynamique. Quoi.
Un collectif d'habitants pense exactement le contraire. Ils viennent de financer une étude qui met en doute la viabilité économique de l'extension. Niels Martin craint que l'exploitant ait d'autres idées pour rentabiliser cet investissement de 11 millions d'euros.
On ne peut que supposer que ce projet, quelque part, est l'arbre qui cache la forêt. C'est soit effectivement on fait une liaison, même si elle n'est pas prévue tout de suite, qui dit qu'elle ne sera jamais faite, qui seront nos élus et nos dirigeants dans 10 ou dans 15 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième possibilité aussi, c'est de faire de l'immobilier.
Car juste derrière le glacier, ce sont les pistes des Deux Alpes, immense station dans laquelle la Grave craint d'être dissoute. Mais pour l'exploitant comme pour les élus, il n'en est pas question. Rallonger le téléphérique est pour eux une modernisation nécessaire.
L'opération, dans 15 ans, on émettra moins de GES construction comprise que si on continue à exploiter le téléski en l'état. Donc environnementalement parlant, on va vers du mieux.
France Culture, De Cause à Effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Reportage diffusé sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur le 19 septembre 2022. Anastasia Martin, vous nous en parliez justement de ces résistances civiles en fait, ces actions aussi de citoyens pour essayer de s'opposer à ces projets. Donc là, c'est le combat contre le projet du troisième tronçon du téléphérique sur le glacier de la Girose et avec ce collectif La Grave Autrement. Défendre la montagne par ces mouvements-là, c'est une entrée en résistance civile, on peut dire ça.
J'irai pas jusque là. Je dirais que on a toujours ce problème de blanc-noir. Et comme le disait très bien le premier interviewé, il faut tout pour faire un monde. En réalité, je pense que ce débat autour du glacier a ouvert, c'est la possibilité d'un dialogue. C'est-à-dire que, oui, c'est compliqué. Bien sûr qu'il y a de la conflictualité. Bien sûr qu'on n'est pas tous d'accord. Néanmoins, la possibilité d'un collectif citoyen qui pose des questions et qui met en débat cette problématique du glacier qui a été littéralement accaparée par une entreprise exploitante à but lucratif, et qui repose cette question de quelle est notre posture collective aujourd'hui face à la possibilité ou non de l'aménagement du glacier, c'est important dans le sens que ça permet de revivifier des processus démocratiques. Donc c'est important à la fois pour la municipalité, mais aussi pour les habitants et habitantes, que de se ressaisir eux-mêmes de ces problématiques. C'est aussi dans ce cadre-là qu'on a organisé il y a quelques années un événement qui s'est appelé Un refuge pour la pensée, où l'idée c'était justement d'interroger les grandes problématiques qui traversent le territoire, de la question du tourisme à la question de la fonte des glaciers à justement qu'est-ce qu'on va faire, en l'occurrence, de ce glacier-là, à l'agropastoralisme, etc., etc., et de mettre en relation des chercheurs qui travaillent sur ces questions-là dans leurs disciplines respectives, avec des habitants et habitantes qui, eux, sont confrontés à ces problématiques-là au quotidien. L'idée étant que la normativité, entre guillemets, de ceux qui disent ce qui doit être ou ne doit pas être, cesse de découler d'élites et de centres intellectuels pour percoler sur le territoire, de même pour les plans de gestion ou de conservation ou d'aménagement du territoire, mais qui soient véritablement discutés dans un processus démocratique, dans des collectifs citoyens, etc. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement positif par-delà l'issue. Sur laquelle, jusqu'à l'heure actuelle, on ne peut pas encore statuer, même si Emmanuel Macron, en novembre 2023, a assuré que 100% des glaciers français seraient protégés à horizon 2030.
En tout cas, c'est repenser les aménagements en montagne dans un processus de co-construction, ce que vous dites, et faire en sorte que ces lieux ne soient pas des lieux de loisirs, de régénération ponctuelle, avec juste l'envie de prendre l'air, c'est ce que vous dites, mais il faut vraiment considérer la montagne autrement, et des rapports autrement, et c'est là où on vous retrouve, avec justement ces leçons, j'ai envie de dire, recueillies auprès des peuples au cœur desquels vous avez pu vivre.
Oui, c'est-à-dire que la montagne comme une ressource pour une dépense, cette manière dont l'économie triste s'applique sur une matière disponible qui a pris cette économie qui a pris le contrôle intégral de nos vies, pour moi ce n'est plus possible. Et on parlait tout à l'heure de questions d'habitabilité. Voilà, pour moi, les glaciers, ils posent cette question-là. On pense 200 000 glaciers qui tempèrent la Terre depuis 2,6 millions d'années. Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est-à-dire ces entités prodigues qui, en fondant doucement, rendent la Terre habitable. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce qu'on va faire d'elle demain? Et ce qui est vraiment intéressant, et ce que j'essaie de souligner dans le texte, c'est l'impensé. C'est l'impensé aussi dont qu'incarnent finalement les glaciers, finalement ces entités les plus austères, les moins vivables, si on est dans une perspective biologisante, et aussi les plus éloignées de la plupart des humains, génèrent de l'existence. Ce sont ces entités-là qui génèrent de l'existence. Elles sont à l'origine des grands cycles de la vie. Et pourtant, elles sont en marge des politiques de la conservation. Et pourtant, le droit de l'environnement les oublie dans leur texte. Voilà. Et pourtant, ces cycles vitaux sont pensés comme des variables d'ajustement. Voilà, c'est vraiment ça que le texte essaie de questionner. C'est finalement, qu'est-ce qu'il y a à l'amont de la vie ? Bah, il y a ces glaciers qui sont en train de. Alors, j'ai pas envie de dire mourir parce que oui, cette forme meurt. Mais néanmoins, c'est une métamorphose. Il y a d'autres choses qui vont s'ouvrir. Il y a énormément de chercheurs qui travaillent justement sur les espaces, les écosystèmes premiers qui vont s'ouvrir avec le retrait glaciaire. Néanmoins, la grande question, ça sera quelle politique de conservation on va mettre en place pour ces espaces-là. Est-ce qu'on va être une nouvelle fois sur des formes de protection type services écosystémiques, etc. Ou est-ce que on va essayer de déséconomiser notre rapport à ces lieux-là? Voilà, c'est un petit peu les questions que j'essaie de poser.
Défendre la montagne et la montagne en tant qu'entité, mais aussi la montagne en tant que lieu de vie et cette vie, elle fourmille. Hein, vous nous donnez aussi ces notions dans vos mots. Vous parlez des refuges montagnards, là où subsiste la joie de s'éprouver, traquer, errer, garder, soigner, observer, collecter, rencontrer, se cacher, méditer, marcher sur le fil, rêver. Anastasia Martin, vous parliez à l'instant de métamorphose. On peut justement s'arrêter sur une métamorphose que vous avez vécue et dans votre chair et avec la rencontre avec le sauvage. On voit bien que en France ou dans d'autres pays, les loups, les ours sont aussi ces vivants qui ont du mal, non pas eux à cohabiter avec nous, mais nous à cohabiter avec eux, en tout cas dans cette façon, dans cette relation-là. Parlez-nous peut-être quand même de cette rencontre qui a été la vôtre avec un ours, une transformation, une hybridation vécue. Vous le racontez dans Croire aux fauves en disant notamment « Nous avons marqué nos corps du signe de l'autre ». Ce « nous » non prévu, ressenti comme une naissance. En quoi cette métamorphose a été complète et fait qu'aujourd'hui, elle vous amène peut-être à défendre la montagne autrement ou à agir autrement. Est-ce que vraiment vous avez cet autre regard sur le monde aussi depuis la métamorphose ?
Oui, je dirais que cette rencontre avec l'ours, elle m'a permis de cesser, d'effacer les conditions de production d'une recherche. C'est-à-dire que, en tant qu'intellectuel, en tant que chercheur, on est généralement entraîné à produire des restitutions, des objets, formes de savoir, qui gomment généralement l'amont, c'est-à-dire le type de relation performative qui a permis à tel ou tel savoir d'émerger. Là, en l'occurrence, moi, travaillant depuis plus de 20 ans sur les questions liées à l'animisme, évidemment, cette rencontre avec l'ours n'a pas été anodine, dans le sens qu'à un moment donné, j'ai dû faire un choix, c'est-à-dire le choix de ne pas parler de ma fréquentation existentielle avec cette question de l'animisme en tant que constitutif d'un travail scientifique.
Alors on rappelle, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas forcément l'animisme, c'est cette façon de considérer qu'il y a une âme, une intériorité dans le milieu et le vivant, et donc c'est cette considération-là avec le vivant, et la rencontre avec l'ours dont on parle, c'est une attaque, entre, en tout cas une rencontre, une attaque avec un ours en 2015.
Oui. Il faut peut-être rappeler les conditions après une expédition sur le plus haut volcan du Kamatchatka et vous redescendiez justement de cette expédition.
Ouais, voilà. Donc c'est cette idée que finalement les cosmologies auxquelles on fait référence lorsqu'on étudie des collectifs qui ne pensent pas le monde avec les mêmes codes et les mêmes normes que nous. Que ces cosmologies, en fait, ne sont pas simplement des croyances assez poétiques, qui réenchantent le monde, mais qui n'ont aucune valeur, entre guillemets, normative, mais qu'elles sont potentiellement tout aussi puissantes dans les descriptions qu'elles peuvent faire de relations entre des êtres et entités que nous, notre manière disons moderne, scientifique, liée à la chaîne causale, etc. de cause à effet, qu'on a de décrire nos relations entre vivants et non-vivants. Donc, c'est-à-dire cette histoire, tout simplement, elle me sert à réancrer dans l'expérience, des idées qui, si elles ne l'étaient pas, resteraient suspendues sur un plan théorique. Et ça, c'est pour moi l'un des grands problèmes qu'on a dans notre manière de faire science, c'est que généralement, on se cantonne à un plan théorique lorsque tout le monde sait bien, en réalité, que l'expérience déborde toujours, en chaque instant, le plan théorique. Donc c'est pour moi c'est cette question-là qu'il faut réussir à retraduire dans nos manières de produire des savoirs.
Et donc il y a cette porosité des frontières entre les êtres vivants et du coup cette métamorphose dont on parle dans votre cas après cette rencontre et cette attaque d'un ours dont vous avez été victime, vous étiez déjà surnommé Matouka par les Évènes, c'est-à-dire l'ours, avant de devenir la femme marquée par l'ours, Mietka, c'est-à-dire moitié. Est-ce que vraiment vous avez vous-même ressenti qu'il se passait quelque chose, peut-être une métamorphose pour vous, en vous, un avant, un après, quoi.
Évidemment qu'il y a eu un avant et un après, mais encore une fois,
mais dans votre approche aussi en tant qu'anthropologue,
exactement.
Au-delà de ce que vous êtes, bien sûr.
C'est ça. Non, et c'est exactement ça la question, et c'est aussi la raison pour laquelle. Pour revenir au livre dont on parle aujourd'hui, la raison pour laquelle on peut parler au plus près et au plus juste de ces entités que sont les glaciers qui fondent et les montagnes qui s'effondrent, c'est parce qu'on les expérimente, c'est parce qu'on les pratique, c'est parce qu'on est là en fait, c'est parce que on est traversé par ces formes qui s'effritent. Et donc la nécessité de repenser les formes, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient comme une nécessité de tout simplement se réajuster à ce qui est en train de devenir un milieu particulier. Donc en fait, c'est la raison pour laquelle lorsque je parle des collectifs animistes et de leur manière de répondre aux enjeux soulevés par le changement climatique, je parle de réponse. C'est-à-dire que les métamorphoses en cours, on peut les envisager comme des problématiques qui sont formulées, des questions qui sont posées. Et nous, notre travail, mais pas seulement en tant que chercheur, mais en tant qu'humain, c'est de trouver des réponses. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est coincé dans des manières de répondre très unilatérales. Encore une fois, le technosolutionnisme, la géo-ingénierie, la transition. Mais qu'on n'a plus... c'est comme si on avait perdu les clés hors de l'aménagement ou de la conservation. génération pour repluraliser les manières de répondre à un monde qui change de visage, qui est défiguré, qui change de forme, etc. Et alors que ces manières, évidemment, on les trouve plus évidemment dans des collectifs autochtones qui ont été, disons, colonisés, assimilés, il y a moins longtemps que chez nous, mais néanmoins ici aussi, c'est encore des formes encore des formes qui existent. C'est-à-dire que ces attachements-là, ce lissage politique, économique, enfin voilà, sous cette acculturation-là, ces attachements-là sont encore présents. Aller parler des chasseurs dans les écrins, à des bergers sur le plateau dans Paris, vous noterez bien lorsqu'ils vous parlent qu'ils ne sont ni dans des logiques gestionnaires, ni dans des logiques purement économiques, ni dans des logiques purement conservationnistes. En fait, il y a tout autre chose qui perle aussi. Néanmoins, ces personnes-là n'ont jamais voix au dialogue.
Oui, c'est-à-dire qu'on ne les entend pas ou pas assez, et c'est voilà. Le travail que vous êtes en train de mener, ou que vous avez déjà
qui est en cours.
Largement mené auprès de ces voix dont vous faites le porte-voix, en fait.
Oui, c'est encore une fois, c'est des logiques de traduction. C'est exactement le même travail que lorsque je fais de l'ethnographie au Kamtchatka ou en Alaska. C'est-à-dire que j'essaie de traduire des manières de se relier à tout ce qui compose un milieu qui ne sont pas modernes, entre guillemets, ou en tout cas qui ne sont pas les présupposés attendus dans lesquels on est situé à l'heure actuelle. Encore une fois, pour réouvrir des possibles hors de ce qui nous est proposé aujourd'hui.
Revenir aux sources, hein, on l'entend dans vos propos, Nastasia Martin, mettre nos pas dans les traces des animaux aussi, retrouver ces façons d'être et de faire, lire et comprendre les paysages, les peuples qui sont restés en connexion, en harmonie avec le vivant. Cela sous-entend quand même de se placer du point de vue et à hauteur des entités naturelles, au-delà peut-être de ceux qui vivent au plus près, justement, de la montagne ou de ces lieux. Comment faire, comment changer ce monde? Et le peut-on encore ailleurs? C'est-à-dire pour s'adresser à un plus large public, à plus de citoyens et de personnes concernées.
Bon, il y a un constat qu'on peut faire si on reste sur la question des glaciers, c'est que nous sommes en train de perdre littéralement les archives atmosphériques de la Terre dans d'un grand incendie qui aujourd'hui est complètement hors de contrôle, et donc on a toute cette archive des grands cycles géochimiques qui part en fumée. Toute la question, c'est qu'est-ce qu'on fait face à ce constat? Est-ce que est-ce qu'on se tait? Ça revient à ce qu'on disait au tout début de l'émission, mais est-ce qu'on se tait? C'est une possibilité. Ou est-ce que on cherche d'autres manières de comprendre les processus en cours? Moi, ce qui m'a intéressé également dans ce texte, c'était de travailler sur la question de la sublimation de la glace et du fait que, en fait, on sait depuis le 19e siècle que les grands cycles biogéochimiques s'opèrent dans l'air qui est un médium fluide, où se créent les réciprocités globales. En fait, cette question-là de l'air comme espace de dialogue, donc rappelez-vous, les glaciers fondent, la mémoire s'évapore comme neige au soleil. La mémoire, si on prend cette perspective, qui est à la fois une perspective scientifique, mais qui est aussi partagée, comme je le montre dans le texte, par des collectifs autochtones, notamment Aymara sur l'Altiplano, l'air, finalement, espace de réciprocité, devient un lieu où la mémoire est à nouveau présente en partage. C'est-à-dire que, c'est vraiment pour vous dire qu'il y a, on peut, on peut saisir cette question de la transformation, de la métamorphose des solides, entre guillemets, de manière complètement subversive, en réalité. C'est-à-dire, on peut se dire, bon, bah, tout s'effondre et c'est fini, ou on peut se dire, oui, mais en même temps, quelque chose, dans ce grand incendie, quelque chose est néanmoins en train d'être à nouveau accessible à notre conscience pour que nous ayons, que nous nous donnions enfin les moyens de nous décaler, de faire un pas de côté et de changer nos manières de concevoir les processus vitaux entre des entités de composition différentes telles les humains et les glaciers.
Donc ça veut dire quoi qu'il arrive, se poser la question de changer aussi nos façons d'être au monde, d'habiter le monde, et donc de questionner aussi nos besoins, hein, puisque cette humanité est grandement prédatrice aussi sur cette planète, et on le voit, et que les effets, c'est la fonte des glaciers, etc. Donc c'est à la fois créer de nouveaux imaginaires, Anastasia Martin, et en même temps faire prendre conscience qu'il faut aussi repenser notre façon d'être sur Terre.
Oui, je parlerais plutôt de cosmopolitique que d'imaginaire. Encore une fois, parce que imaginaire me semble un petit peu trop réducteur. Mais la question à laquelle on va tous être confrontés et à laquelle on est déjà confrontés demain, c'est encore une fois cette question de la terre habitable, de l'habitabilité, c'est-à-dire comment demain on va pouvoir continuer de faire monde commun dans un monde qui est en train de devenir littéralement irrespirable. Et pour ça, c'est-à-dire les processus actuels de décarbonisation, de dépollution, de préservation des milieux sont essentiels, mais la formulation du problème écologique et des questions d'écologie politique est elle aussi essentielle, d'où la nécessité de décoloniser ces savoirs-là du langage économique.
Et donc localement, avec tous ceux que vous avez rencontrés, vous sentez qu'il y a cette résonance-là, en tout cas, façon de recevoir le message hein, qui est le vôtre. Vous percevez une partie des citoyens qui ont vraiment envie de changer de, moi je parlais d'imaginaire, mais d'une autre façon de vivre sur Terre.
C'est pas qu'ils reçoivent le message, c'est que eux-mêmes génèrent un message. C'est-à-dire non, mais c'est que eux-mêmes génèrent un message qui n'est pas le message qui est censément attendu d'eux. Encore une fois, lorsque vous vous trouvez dans un milieu particulier et que vous êtes traversé par ce milieu particulier, que ce soit la toundra ou la taïga du Grand Nord ou les montagnes des Écrins, vous ne pouvez pas ne pas expérimenter des choses qui débordent entre guillemets le registre moderne des questions de gestion et d'aménagement.
Et donc ça veut dire garder une âme d'enfant aussi, hein, parce que vous nous l'expliquez en refusant de basculer dans le monde adulte que vous décrivez comme celui où on cesse de croire, d'errer, de chercher son chemin. Donc garder une âme d'enfant.
Certes.
Plus que jamais, je sais que c'est ce que vous faites aussi, Anastasia Martin. Merci à vous, merci. Et à déguster, bien sûr, le beau livre commis avec le photographe Olivier de Sépibus, Les sources de glace, livre publié chez Paulsen. Et comme d'habitude, la bibliographie complète vous concernant, les informations, autres podcasts aussi en lien avec le sujet sont à votre disposition sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Et plus que jamais, suivez vos rêves.